Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre série Foire aux questions. On a abordé dans le premier épisode les prix, dans le deuxième épisode la visibilité et aujourd'hui on va parler de comment finalement trouver ta spécialité en tant que prof de yoga pour te différencier, sortir du lot au milieu de la concurrence puisqu'elle existe et elle sera de plus en plus nombreuse, mais ça tombe bien puisque le marché du yoga est lui aussi en plein essor. Donc finalement on va parler positionnement, finalement on va parler niche sans concrètement dire ce mot, mais en tout cas c'est bien de ça dont il s'agit quand même. Alors les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, ce sont des questions comme par exemple: faut-il vraiment être spécialisé pour enseigner le yoga, même à titre complémentaire d'une activité principale? J'ai trouvé cette question très intéressante parce que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à ne pas forcément faire du yoga votre activité principale aujourd'hui et à être des slasheurs ou en tout cas à rester pour l'instant dans par exemple votre CDI. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant de parler de ça. On répondra aussi à la question: j'ai l'impression que si on se lance en ligne pour donner des cours en ligne, eh bien on a une forte concurrence, surtout avec les comptes stars d'Instagram. Donc c'est cette partie-là de la question sur laquelle je vais me concentrer. Donc comment on se différencie quand on ne sait pas faire des postures de dingue? Donc évidemment j'aime beaucoup cette question parce que j'imagine à quel point ça peut freiner, faire peur à de jeunes profs de yoga qui se reconnaissent pas forcément dans ces postures plus avancées. Donc j'aurai plaisir de répondre à cette question. J'ai aussi la question: quelles questions se poser et quelles réflexions avoir pour se différencier des autres profs? Donc celle-ci, c'est ma préférée, évidemment qu'on va traiter ça dans le sujet d'aujourd'hui. On a aussi du coup, des questions plutôt autour de, finalement, des multi-passionnés. C'est ici qu'on va les retrouver dans cet épisode. Avec cette question qui revient souvent: comment se différencier quand on aime beaucoup de choses, comment se présenter quand on est pluridisciplinaire, entre guillemets, je fais tout, n'envoyant pas forcément un bon signal. Donc comment finalement présenter tout ça quand on a la fameuse schizophrénie des multiples casquettes et du coup de la difficulté à présenter, à exprimer tout ça. Évidemment, concernant les multi aussi, j'ai eu par exemple une question: comment organiser son Insta ou autres canaux avec mes deux activités, alors presque trois j'ai envie de dire, puisque c'est une question d'une élève qui a à la fois une activité par exemple de joaillerie, de litho et de yoga. Donc peut-être que la joaillerie et la litho d'ailleurs fonctionnent ensemble, donc ça aussi ça peut être potentiellement ton cas. Donc je donnerai aussi des exemples concrets. Et puis une dernière question qui est: comment, enfin je crée ma structure de cours, comment se démarquer de certaines structures qui proposent des concepts similaires? On peut typiquement imaginer la question: je crée mon studio de yoga, bah, comment se démarquer des autres studios de yoga finalement? Donc c'est à toutes ces questions que je vais répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu es prête et on démarre tout de suite. Faut-il être vraiment spécialisé pour enseigner le yoga, même à titre complémentaire d'une activité principale? Donc là, ma réponse, eh bien, tout d'abord, ça va dépendre de: est-ce que enseigner le yoga à titre complémentaire, tu vas le faire en ton propre nom Par exemple, louer ta salle ou pourquoi pas développer ton activité en ligne, ou est-ce que ton objectif, c'est uniquement de trouver des créneaux dans des studios de yoga ou dans des salles de sport, peu importe, mais finalement d'être employé par quelqu'un pour quelques cours par semaine, ou encore aussi, est-ce que selon justement quelle proportion tu vas vouloir allouer à cette activité et selon quels vont être tes objectifs personnels en lien avec ça, à la fois en termes de revenus, mais aussi en termes de temps que tu veux y passer, d'énergie, d'horaire, etc. Eh bien, en fonction de tout ça aussi, est-ce que tu as le souhait de te faire connaître au-delà, par exemple, de ton propre réseau, ou est-ce que tu envisages plutôt, justement, et on en a parlé hein, notamment dans l'épisode visibilité de cette technique sous-cotée, est-ce que tu envisages plutôt, par exemple, de donner des cours privés ou des cours de temps en temps à des personnes que tu connais, du bouche à oreille, etc. Et donc, en fonction de ça, la spécialisation dans le sens vraiment trouver ton positionnement, créer du contenu en ce sens, etc., va être plus ou moins nécessaire en fait, si effectivement tu trouves ton créneau parce que de toute façon tu veux enseigner localement. Il y a des studios qui cherchent des profs de yoga pour des créneaux, ça match et du coup tu n'auras pas forcément besoin toi de communiquer, même si tu pourras toujours bien évidemment relayer pour soutenir le studio, tes cours sur tes réseaux ou autres, mais on voit finalement que ça va dépendre de tes objectifs personnels finalement, et puis de si tu cherches à trouver des créneaux en studio, si tu veux au contraire louer ta salle et que il y a aussi pas mal d'autres profs qui donnent des cours de yoga autour de toi, si tu veux enseigner en ligne, si tu veux aller toucher des entreprises, donc évidemment qu'il va falloir quand même travailler sur ta proposition, c'est-à-dire qu'est-ce que t'apportes, tu aides sur quoi, c'est quoi ta patte, ta manière d'enseigner, etc. Mais ta spécialisation, ton positionnement, il aura peut-être besoin effectivement d'être moins abouti que quelqu'un qui veut vraiment, par exemple, développer un business 100% en ligne ou vraiment se faire connaître. Et on y reviendra quand on travaillera tout à l'heure sur quelles questions se poser pour se différencier des autres profs. Donc vraiment, tout ça, c'est des questions à te poser en fait. Tu veux donner combien de cours? C'est quoi tes objectifs avec ces cours? Tu veux les donner en toute indépendance? Louer une salle? Il y a de la concurrence autour de toi ou pas? Est-ce que tu as besoin de te faire ta propre clientèle ou pas? Est-ce que tu veux déjà travailler au sein de ton réseau ou sortir de ton réseau, communiquer et te faire connaître? Donc vraiment, toutes ces questions-là, elles sont propres à ta vision et à comment tu vas justement enseigner le yoga à titre complémentaire, à quelle échelle, à quel niveau, où est-ce que tu places le curseur, et en fonction, eh bien effectivement, tu auras plus ou moins besoin d'avoir une spécialisation et de te différencier pour te démarquer. Question suivante, donc j'ai l'impression que si on se lance en ligne, on a une forte concurrence, surtout avec les comptes stars d'Instagram. Cette question-là m'a presque fait un pincement au cœur. Et donc, comment on se différencie quand on ne sait pas faire des postures de dingue? Alors, déjà, la première chose à savoir par rapport à ça, c'est que toi, ces comptes stars d'Instagram, comme tu dis, tu les vois. Mais si tu les vois, c'est parce que toi, tu es prof de yoga, tu t'intéresses au yoga, et donc l'algorithme de ton compte Instagram, il œuvre en ce sens pour te proposer des contenus qui t'intéressent, pour te proposer des contenus qui correspondent à probablement ce que tu regardes ou ce que tu recherches sur Instagram. Mais je t'assure que si tu regardes le compte Instagram de Tata Josie ou si tu regardes le compte Instagram d'un petit garçon qui lui peut-être s'intéresse plus à Naruto au football, eh bien tu verras que lui sur son compte Instagram, ou elle en tout cas sur son compte Instagram, qui pourrait potentiellement plus être une cliente pour toi peut-être, eh bien ces comptes stars d'Instagram, entre guillemets, elle ne les voit pas. Ce ne sont pas des contenus qui font partie de son feed d'actualité. Peut-être qu'elle a dans son fil d'actualité des recettes sympas pour toute la famille. Peut-être qu'elle a des petits chatons. Peut-être qu'elle a voilà des choses sur la mode ou autre. Mais peut-être pas forcément, en tout cas, tous ces comptes que toi tu suis, parce que ben, souvent en tant que prof de yoga, on suit aussi d'autres profs de yoga ou en tout cas on regarde leur contenu ou on regarde ce qu'elles font. Donc en fait, n'oubliez pas que Et n'oublie pas que derrière Instagram et derrière tous les réseaux sociaux que tu consultes, il y a des algorithmes qui font leur travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à l'inverse, quand on parle de création de contenu, eh bien, on cherche à créer du contenu bah, qui va aider justement potentiellement les personnes qui recherchent des solutions, du contenu qui répond aux désirs, aux objectifs, à ce que veulent ces personnes, puisque justement les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent comme ça et nous présentent ce qu'on a envie de voir, ce qu'on recherche, ce qu'on veut, ce qu'on consomme. Ok? Donc ça déjà c'est la première chose à intégrer, c'est qu'en fait toi ce que tu vois, la matrice dans laquelle tu es, la réalité dans laquelle tu vis, et bah, finalement, c'est pas la même, puisque aujourd'hui on vit tout un petit peu la tête dans nos téléphones et dans les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, on vit pas les mêmes vies selon nos centres d'intérêt, selon ce qu'on regarde, selon ce qu'on consulte et donc selon ce que les algorithmes veulent bien nous montrer ou nous proposer. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de quand même comprendre à un moment donné que tout le monde ne veut pas faire ce genre de posture, voire même certaines personnes, finalement, ça fait partie des mythes qu'ils peuvent avoir sur le yoga et des clichés ou des mythes, entre guillemets, à déconstruire pour dire, mais le yoga, non seulement c'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est pas que ça. Ok, donc il y a aussi plein de personnes qui ne sont absolument pas intéressées pour aller faire ce genre de posture, mais qui en revanche peut-être assimilent le yoga à ça, ou même pas du tout, et auquel cas, du coup, comme on le disait, parce que c'est pas du tout le contenu qu'elles consomment et ce qu'elles voient et ce qu'elles savent du yoga, et donc dans ce cas-là, c'est complètement ok. Autre chose, si ces postures de dingue, ce n'est pas ta pratique, eh bien justement, c'est là-dessus aussi que toi, tu vas communiquer, c'est-à-dire ton approche du yoga à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que le yoga a changé pour toi sans pour autant avoir besoin d'en passer par ce genre de posture? Je te donne juste un exemple rapide parce que c'est, je pense, une prof de yoga connue sur les réseaux et dans le milieu du yoga. Je vais te parler de Laura Harley que j'avais eu aussi l'occasion d'interviewer, qui est la créatrice du compte Histoire de Yoga et qui a sorti un livre d'ailleurs récemment. Bravo à toi, Laura. Eh bien, je me souviens même que pendant un moment dans sa bio, elle mettait justement qu'elle était prof de yoga pas souple et elle mettait ça en avant. Et tu trouveras jamais sur le compte de Laura des postures what the fuck et puis un contenu voilà orienté sur ce type de posture qui en soi ont le droit d'exister puisque on est toutes profs de yoga ici, en tout cas une majorité, et on sait très bien nous quel est le chemin vers ce genre de posture. Et moi, je suis tout à fait ok, à l'aise avec ce type de contenu, avec ces postures. Je trouve ça magnifique parce que je sais aussi ce que ça représente derrière. Mais sincèrement, c'est pas ça qui va forcément m'attirer, sauf si effectivement c'est un de mes objectifs. Et auquel cas, c'est intéressant aussi qu'il y ait des personnes justement qui mettent en avant ce genre de pratique pour des personnes qui auraient envie. Bah voilà, moi par exemple, en tant qu'ancienne gymnaste, je sais que parfois j'aime aller chercher des postures qui vont me rappeler un petit peu dans le corps quelques souvenirs de postures un peu plus acrobatiques et je trouve que c'est complètement ok. Mais encore une fois, si toi, c'est pas, c'est juste que c'est pas là-dessus que tu vas communiquer et donc tu vas aussi attirer ton public. Donc par exemple, comme Laura l'a fait plutôt autour de la philosophie du yoga et ça ne l'empêche pas d'être prof, de donner des cours, d'enseigner, d'avoir des programmes en ligne, etc. Un autre point aussi que j'aimerais mentionner par rapport à ça, souvent on parle des comptes stars, notamment par rapport à des fois des milliers de followers, parce que des comptes qui ont démarré il y a quelques années déjà en arrière, ou des personnalités fortes, des personnes qui sont présentes tous les jours sur les réseaux sociaux, qui publient tous les jours, vraiment qui ont développé le yoga à travers leur image, leur pratique, et avec une image fortement présente, hein, presque d'influence, entre guillemets. Attention, je ne dis pas influenceuse, mais d'influence. Mais ne jamais oublier qu'un nombre important de followers, tout comme un nombre de likes, ça ne veut pas dire potentiellement autant de clients derrière. Et ce n'est pas forcément les comptes, en fait, qui convertissent, entre guillemets, pour expliquer, pour utiliser un terme marketing, qui convertissent le mieux en clients. Donc, c'est aussi... Évidemment, plus on est connu et plus potentiellement on a une audience qualifiée, plus on a aussi de chances, effectivement, si on sort une offre, d'avoir un nombre important de clients. C'est évident, c'est mathématique, très bien. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'un compte avec moins d'abonnés ne te permettra pas, en fait, finalement, de vivre de ton yoga. Et encore plus, justement, si ces abonnés sont qualifiés par rapport à ce que tu vas leur proposer, et on y viendra dans le point suivant. Quand tu vas lancer une offre, au mieux tu connais tes abonnés, ce qu'ils veulent, ce que tu vas leur proposer, au mieux tu as de chance d'avoir des personnes qui te suivent dans tes offres et complètement de vivre de ton activité, de tes offres et de ton yoga. Donc, attention avec ces metrics, on parle souvent de vanity metrics, hein, mais au-delà de ça, c'est pas parce que t'as pas des millions de followers que tu convertiras pas ceux qui te suivent ou ton audience en clients et que tu n'arriveras pas à vivre de ton activité. Ça dépend aussi de tes offres, du prix de tes offres, de combien de clients t'as besoin pour atteindre tes objectifs. Donc tout ça finalement est quelque chose de très personnel et qui va dépendre de l'écosystème d'offres que tu vas mettre en place, de ta stratégie de prix, etc. Et ensuite, eh bien, je dirais tout simplement que l'objectif, hein, c'est que tu attires ton audience dans le sens tes gens, les gens qui vont résonner avec toi, qui vont résonner avec ton type de pratique à toi, avec ton approche du yoga à toi, avec ce que toi, tu as envie de transmettre, de partager, d'apprendre aux autres, en fait. Et ça tombe bien, justement, que tout le monde fasse pas la même chose, parce que comme ça, il y en a aussi pour tout le monde. Donc, si je te donne quelques exemples, hein, de clientes qui ont fait Yogi Bizline avec moi, on a l'exemple de Laurane, qui aujourd'hui est plutôt spécialisée sur l'anatomie, mais qui en réalité est venue à l'anatomie via une approche justement sur des postures un petit peu pick pose, quoi, on va dire. On a aussi Fiona qui a son membership Home Yoga. On a aussi Alexandra qui est spécialisée sur l'anxiété, donc avec une approche yoga, breathwork autour de l'anxiété. On a Ingrid que j'ai interviewé récemment plutôt sur la partie Pilates, qui a et un studio et développé un membership en ligne, donc une plateforme, un studio en ligne de Pilates. Et toutes ces profs de yoga, elles n'étaient pas forcément connues avant de se lancer. Elles n'ont pas toutes des millions de followers et pour autant, elles ne font pas toutes non plus des postures what the fuck, voilà, et elles ne sont pas forcément les comptes stars d'Instagram. Et pour autant, eh bien, elles vivent aujourd'hui de leur activité en ligne ou hybride, de leur activité de yoga. Et puis à côté, on peut avoir Marine Chapon, par exemple, qui, elle, a plutôt des visuels, effectivement, et partage plutôt une pratique très avancée vers ce type de posture. Pour autant, d'ailleurs, ce qu'elle propose n'est pas forcément toujours sur ce type de posture-là. Ça reste sa pratique personnelle et elle l'explique. On a aussi Tatiana, par exemple, ou encore d'autres. Et en fait, finalement, ça fonctionne pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est que ces comptes que toi tu vois comme des comptes stars d'Instagram, en fait c'est une chose, mais c'est pas ça qui va t'empêcher toi de développer ta clientèle et de vivre de ton business en ligne ou pas, hybride, peu importe. Donc voilà pour la réponse à cette question. J'espère que ça peut-être entre guillemets déculpabilisera sur ce sujet. Alors ensuite, on avait justement quelles questions se poser ou quelles réflexions avoir pour se différencier des autres profs. Donc effectivement, ça c'est une question qui est très pertinente puisque aujourd'hui, on peut pas Enfin, on est obligé de le reconnaître, hein, le marché du yoga et le nombre de profs de yoga est en évolution constante. C'est vraiment un marché qui est en plein développement. Alors effectivement, il y a de plus en plus de yogis, il y a de plus en plus de pratiquants, il y a de plus en plus de gens qui veulent se mettre au yoga, mais il y a aussi effectivement de plus en plus de profs, et puis certaines en vivent, d'autres pas. Certains studios ouvrent, d'autres ferment, donc effectivement, on ne peut pas nier que c'est un marché concurrentiel. Et donc, plus on est sur un marché concurrentiel, effectivement, plus ça va être important de trouver sa spécialité pour faire la différence. Donc la question à se poser, effectivement, c'est comment toi, tu vas faire la différence. Et ce qui est important de comprendre à ce niveau-là de réflexion, c'est que tu n'as pas à être exceptionnel sur quoi que ce soit, tu n'as pas à innover et à trouver le truc que personne n'a jamais fait ou je ne sais quoi, tout comme tu n'as pas non plus à être justement la prof de yoga la plus souple et capable de faire toutes les postures possible et imaginable ou de rester 5 minutes en handstand. Tu n'as absolument pas besoin de tout ça en fait pour te différencier. Donc c'est juste important de comprendre à ce stade que ce qui va te permettre d'attirer du monde, de donner envie de pratiquer avec toi, ce qui va te permettre de développer tes revenus, de vivre de ton yoga, eh bien c'est d'être connu et reconnu, j'ai envie de dire, pour quelque chose. Et en fait, c'est sur ce quelque chose qu'on travaille quand on dit trouver sa niche, trouver son positionnement, se différencier, trouver sa spécialité. Tout ça, c'est in fine un peu la même démarche, ok ? Donc, l'idée, c'est que tes élèves doivent pouvoir te décrire ou décrire l'expérience qu'ils vivent avec toi, peut-être si on est plutôt sur un studio, mais doivent pouvoir parler de ta spécialité et dire en fait finalement c'est quoi le yoga avec toi, et on doit être à même de pouvoir te recommander. C'est-à-dire que quand une personne dit je cherche un prof de yoga pour telle ou telle raison, et c'est souvent le cas, moi par exemple j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par mail ou quoi, qui me trouvent sur Google et qui me disent je cherche un prof pour mes problèmes de dos, je cherche un prof pour en complément du MMA, je cherche un prof de Yin Yoga à tel endroit, etc. Donc en fait, souvent, on vient me demander pas juste je cherche à faire du yoga et un prof de yoga. Ça, c'était peut-être le cas il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On cherche un prof de yoga pour quelque chose, entre guillemets, de bien précis, souvent. Donc, ça va être important, effectivement, de savoir ce pourquoi, toi, tu veux être connu et reconnu et de trouver, finalement, ce quelque chose. Qu'est-ce que tes clients, tes élèves vont apprendre avec toi, sur quoi ils vont cheminer, vers quoi ils vont aller. Donc, tu vas finalement te différencier par ce que tu proposes, à qui tu t'adresses, ton style, ta pédagogie, ta patte, mais aussi, et aussi d'ailleurs j'ai envie de dire, par probablement le format de tes offres. Donc, en ce qui concerne comment mettre le doigt, creuser, commencer à brainstormer sur ce qui va pouvoir te différencier. Eh bien moi, la première question que j'aime bien soulever avec mes clientes, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a amené au yoga ? C'est-à-dire que si tu regardes en arrière, dans quelle situation tu étais et qu'est-ce que tu es venu chercher dans une pratique de yoga, dans un cours de yoga, versus aujourd'hui en fait. Donc quelque part, c'est un petit peu de rétro-pédaler sur c'est quoi ton histoire avec le yoga et c'est quoi finalement le cheminement que tu as fait avec le yoga. Et typiquement, moi j'adore l'idée de presque, tu vois, comme faire un dessin avec toutes les émotions que tu ressentais avant, dans quelle situation tu étais, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui allait pas, etc. Versus toi après et en tout cas sur quoi le yoga peut-être a agi. Si admettons tu n'avais pas connu le yoga, est-ce que tu avais par exemple, je sais pas, des mauvaises habitudes, des addictions, des inconforts sur quelque chose ou quoi, et où tu es bien consciente qu'en fait le yoga t'a aidé sur ce chemin-là. Attention, il s'agit pas de dire que c'est un outil magique qui guérit ou quoi que ce soit, mais il s'agit de partir de toi et de voir en fait qu'est-ce que toi t'as intégré avec la pratique du yoga et du coup que tu es en capacité probablement de transmettre et probablement de transmettre le mieux puisque tu l'as vécu et puisque ça part de ton expérience personnelle. Donc en quoi le yoga vraiment t'a aidé toi aussi de manière personnelle ? Donc avec cet avant-après. Donc qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga à la base ? Ton histoire avec le yoga avant-après, de manière personnelle. Et puis, évidemment, on va aussi aller se questionner sur qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer finalement toi dans le yoga, qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner, qu'est-ce que tu as peut-être préféré dans ton yoga teacher training, c'est quoi les cours qui t'activent le plus, qui t'animent le plus. Donc voilà, si tu as déjà, tu as probablement déjà, en tout cas, des choses qui te passionnent, qui t'intéressent plus, et puis voilà, d'autres moins. Donc c'est déjà peut-être de commencer aussi en regardant ça d'un peu plus près et en faisant le tri là-dedans. Et puis, il y a effectivement aussi quelles sont finalement les personnes peut-être avec lesquelles ton enseignement matche le plus ou quelles sont les personnes qui sont le plus sensibles à ton enseignement et qu'est-ce qu'elles viennent te donner comme feedback. Ça peut même être lors de ton yoga teacher training, hein, en général. On a quand même à la fin des pratiques, des feedbacks, surtout quand on... Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas dans mon yoga teacher training, mais l'idée, c'est, voilà, quels sont peut-être... qu'est-ce qu'on t'a déjà dit en fait, j'ai pas envie de dire les compliments qu'on t'a fait, mais qu'est-ce qu'on est venu te dire peut-être après un cours de yoga finalement que t'as enseigné, est-ce que t'as déjà aidé quelqu'un dans sa pratique ou sur un sujet en particulier grâce au yoga, donc dans sa vie aussi par exemple, et puis aussi hein, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on dit de toi ? Parce que souvent, on a des qualités dans la vie de tous les jours, en fait, qui peuvent se retranscrire dans notre enseignement. Ok, donc par exemple, une personne qui a toujours des idées, qui a de l'imagination, qui est créative, voilà, peut-être que ça va se retranscrire aussi dans ses flows, je sais pas, donc c'est peut-être ça que tu vas mettre en avant, comme voilà, des flows peut-être créatifs, avec beaucoup de liaisons, de liens, de comment dire, de rapidité entre guillemets, enfin voilà, quelque chose vraiment de fluide, je cherchais le mot, donc ça, peut-être que ça va être une des caractéristiques de ce qui te différencie. Ok, et puis donc du coup à partir de ça finalement eh bien ça va aussi nous donner une idée à partir de tout ça hein, sur qui est-ce que je peux aider et je peux les aider par rapport à quel objectif, par rapport à quel qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est l'objectif qu'ils veulent, leur désir, qu'est-ce qui aujourd'hui peut-être leur convient pas et puis ils aimeraient améliorer et ils se tournent vers le yoga dans cet objectif là. Donc objectif, désir, résultat, transformation, tout ça, c'est qui est-ce que je peux aider ? Parce que moi, je suis passée par là, j'ai vécu ça, et en plus, voilà, je vais associer à ça tel type de yoga, parce que moi, c'est ce qui m'a fait du bien. Et quelque part, dans ce type de yoga, bah, ma touche personnelle, c'est par exemple la créativité, la fluidité, ou au contraire, autre chose, la pédagogie, l'explication, je sais pas. Et donc, tu vois, à partir de tout ça, finalement, eh bien, tu vas pouvoir trouver ce qui te différencie, ce qui fait que faire du yoga avec toi, c'est pas faire du yoga avec la voisine. Et puis, évidemment, hein, pour... Alors ça, c'est pas forcément la partie la plus facile, mais si tu travailles sur toi, par exemple, moi j'ai des clientes qui travaillent en human design et ça les aide à reconnaître leurs forces et leurs talents vraiment de manière objective. Alors soit bah, tu vas les reconnaître par rapport à ce qu'on dit de toi et ce pourquoi on vient te chercher, entre guillemets, ou les feedbacks qu'on te fait, soit effectivement c'est un travail à faire sur bah, tes forces, tes talents, tes propres qualités finalement que tu penses avoir en tout cas pour enseigner, partager ton yoga. Donc finalement, on voit que tout ça, tes forces, ton expérience, ton cheminement, ton histoire personnelle, ta personnalité, tes valeurs, eh bien à partir de là, on comprend que quand on a fait ce travail-là, personne ne peut enseigner finalement le yoga et créer des offres comme toi tu vas le faire. Donc même si tu es sur la même thématique que quelqu'un d'autre, par exemple le yoga prénatal, on aura plusieurs profs de yoga prénatal, mais ton histoire est probablement différente de celle de la prof d'à côté, tes formations aussi, ton style aussi, ta pédagogie aussi, tes valeurs aussi, ce que tu as envie de transmettre aussi, et puis surtout probablement aussi que les offres que tu vas créer seront différentes. Peut-être qu'une prof va créer un membership, là où toi, tu vas plutôt créer des programmes préenregistrés sur certaines thématiques, et ainsi de suite. Donc vraiment, moi je vois, j'ai plusieurs profs de yoga prénatal, postnatal, etc. Il n'y a pas une offre qui se ressemble. Et pourtant, il y en a un paquet qui sont sur ce segment cible-là, j'ai envie de dire, d'accord ? Donc, l'idée c'est que tu vas te positionner à partir de ces éléments-là, donc en fait à partir de choses que tu as déjà en toi, t'es assez aujourd'hui déjà pour te différencier, te spécialiser, te positionner. Et tout ça, eh bien, c'est exactement ce que les clients vont venir chercher chez toi. Et c'est d'ailleurs ce que tu pourras aussi retranscrire dans tes contenus. Finalement, ça sera ta méthode, ta façon unique d'enseigner, de partager le yoga, de voir les choses. Et ça va être important justement pour attirer du monde, pour te différencier, pour sortir du lot. Ça va être important tout ça parce que les gens qui vont venir vers toi sont les gens aussi qui vont se reconnaître dans ton histoire. Donc tout ça c'est extrêmement important à prendre en compte et c'est bien au-delà de juste dire je suis prof de yoga ou j'enseigne le vinyasa. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire de trouver à qui on s'adresse, se positionner, trouver la transformation qu'on veut apporter pour sortir du lot et se différencier. Donc j'espère que ces concepts sont de plus en plus clairs au fil des explications. On va pouvoir maintenant du coup passer à la partie multipassionnée ou en tout cas multicasquette et puis au-delà d'être multipassionnée, souvent c'est multi-outils j'ai envie de dire. Donc moi je travaille avec des profs de yoga mais souvent mes profs de yoga sont aussi thérapeutes, astrologues, coach fitness, naturopathe, nutritionniste, sophrologue. Donc vraiment j'ai beaucoup de profs de yoga qui ne sont pas que profs de yoga et qui ont aussi beaucoup d'autres outils dans leur formation et dans leur champ de compétences. Donc je parlais de l'astro, je parlais de la nutrition, je pourrais parler aussi de l'Ayurveda, je pourrais parler aussi, pourquoi pas, du human design, etc., etc. Donc finalement, il y a ce fait déjà de comment je me différencie quand j'aime beaucoup de choses, mais comment aussi finalement je suis un peu multicasquette, j'ai plein d'outils. Et donc, comment je fais pour finalement réussir à me présenter, à parler de moi, à savoir à qui je m'adresse de manière claire. Donc, je connais bien ce sujet. Et alors, très souvent, en fait, il y a confusion entre qui tu vas aider, à quoi, dans quel objectif. Donc, finalement, la transformation sur laquelle tu vas accompagner et guider tes clients, le parcours client, il y a souvent une confusion entre ça et tes outils. En fait, c'est pas tes outils qui comptent quand on va te présenter. Alors, quand tu vas te présenter, ça n'empêche pas que tu pourras les mentionner, tu pourras en parler dans tes contenus, ça c'est tout à fait ok, mais ça nous intéresse pas, entre guillemets, de connaître ta liste d'outils dans le sens où c'est comme si, j'aime bien prendre cet exemple, tu sais, du chef d'un restaurant. En fait, tes outils, c'est ta popote, c'est ta recette. C'est toi qui sais à quel moment, en fonction des problématiques, admettons, ou des désirs de l'élève ou de la cliente qui va se trouver en face de toi, c'est toi qui sais un petit peu quelle arme dégainer. Arme dans le sens, justement, quel outil utiliser. Tiens, là, c'est peut-être une méditation qui va mieux s'adapter. Tiens, bah là, c'est peut-être plutôt une lecture en human design qui va mieux s'adapter. Tiens, bah là, c'est peut-être plutôt une pratique de tel style qui va mieux s'adapter. Et donc, à partir du moment où tu vas trouver ce vers quoi tu veux accompagner tes clients, dans quelle transformation tu veux les accompagner, par exemple, et là, je pense notamment, hein, évidemment, c'est un réflexe chez moi, mais plutôt sur des offres en ligne, eh bien, ça veut dire que c'est toi qui vas savoir à l'intérieur de ton offre, en fonction finalement de la promesse de ton offre, de ce que tu vas venir mettre à l'intérieur. Alors évidemment, dans ta com, tu vas en parler. Mais en fait, tu vas surtout te concentrer sur justement cette fameuse transformation. Donc, qui tu vas aider, à quoi, vers quoi, comment. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de dire « je suis prof de yoga, sophrologue, j'utilise les massages, les machins, les trucs ». En fait, ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. D'accord ? Et surtout, justement, l'idée par rapport à ça, c'est de faire des ponts entre tes outils, de trouver des éléments communs entre tes outils et de te dire, bah, justement, comment tous ces outils, finalement, c'est quoi le point commun de tous ces outils ? Qu'est-ce que l'essence même de tous ces outils peut... qui je peux aider au mieux avec tous ces outils ? Ok, pourquoi j'aime moi les utiliser, dans quel sens, dans quelle direction? Par exemple, je pense là à l'Ayurveda. L'Ayurveda peut être utilisé de différentes manières selon les profs de yoga qui utilisent l'Ayurveda. J'ai des profs de yoga qui vont utiliser l'Ayurveda en termes d'énergie pour les entrepreneurs, par exemple. Et puis, j'ai d'autres profs de yoga qui vont utiliser l'Ayurveda et plutôt corréler ça aux saisons. Donc, l'approche va être complètement différente, en fait. Ok ? Donc ça, c'est extrêmement important de se dire, bah, les outils, c'est ma sauce, c'est ma recette, c'est moi qui sais à quel moment je vais faire intervenir quels outils, mais les personnes que je veux aider et que je peux aider, en tout cas, avec tous mes outils, elles ont ce point commun. Et moi, je veux les emmener là parce que, encore une fois, on revient au point précédent, hein, c'est ce que j'ai traversé, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît, c'est là où j'ai des compétences, c'est ce que je sais faire le mieux, etc., etc. Donc, en fait, on va vraiment chercher toujours à se dire, bah, ok, c'est quoi les points communs des gens que je pourrais aider avec mes outils ? Ou c'est quoi les ponts communs entre mes outils qui vont me permettre d'aider les gens sur, sur ma transformation, ma promesse de mes offres, ok ? Donc, le mot, l'idée à retenir, hein, c'est trouver des points et des ponts communs, finalement, dans tout ça. Une autre option sur... une autre option, c'est pas forcément une autre option, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quand on crée des offres sur le chemin de sur le parcours de ton client, en fait, tu auras peut-être plusieurs offres à lui proposer pour travailler avec toi, et tous tes outils ou tout ce que tu aimes peut aussi arriver à des moments différents. C'est-à-dire que t'es pas forcément toujours obligé de mettre toutes tes connaissances et tous tes outils dans une seule et unique offre. Et justement, tu vas peut-être aussi pouvoir exploiter tes outils de manière différente. J'aimerais te donner l'exemple de Sandrine Delpuech, qui est cliente chez moi, qui est cliente de YogiBizLine, qui est cliente en Human Design, qui, du coup, que tu peux retrouver par exemple sur Instagram sous le nom Sandrine Delpuech. Elle a dans sa caisse à outils, on va dire, le yoga, l'Ayurveda, la photographie, pour ne citer que ça. Et son positionnement, donc comment elle se différencie, sa spécialité, entre guillemets, c'est d'aider les femmes à se reconnecter à leur image malgré le temps qui passe. Ok ? Donc on est dans la reconnexion à soi, dans l'amour de soi. Par rapport à son image, le reflet un petit peu qu'on se renvoie aussi dans le miroir finalement. Et donc il y a bien une notion de temps qui passe, hein. Ok, et ça, elle le fait effectivement à la fois par le yoga, et donc elle va aller toucher finalement un moment particulier du parcours de son client, de sa cliente avec le yoga. Elle le fait avec les massages. Donc là, on va dire que c'est une activité plutôt, même si elle l'utilise parfois aussi en ligne, mais plutôt en présentiel. Elle le fait via l'Ayurveda, peut-être avec une approche du coup qui va être plus personnalisée dans ce cas, donc peut-être un programme, quelque chose, effectivement, où il y aura plus de personnalisation, peut-être du coaching, peut-être la possibilité de poser des questions, etc. Et elle le fait aussi avec une autre de ses passions qui est la photographie. Donc qui peut être qui est un service qui est complètement lié finalement à ce sur quoi elle est positionnée, ce pourquoi elle veut être connue, reconnue, sur effectivement ce en quoi elle est différente avec ses outils d'une autre prof de yoga ou d'une autre pratiquante d'Ayurveda ou d'une autre photographe. Mais elle a réussi en fait, donc c'est ce que j'appelle la niche parapluie, hein, en fait à trouver du lien entre tout ça pour quelque part se positionner et se différencier. Un autre exemple, c'est celui d'Alexandra, qui est aussi une des clientes de Yogi Bizline. Tu peux la retrouver sur Instagram, donc Alexandra Flow Online, et je l'ai également interviewée sur Yogi Biz Podcast. Alexandra, elle, son truc, c'est d'aider les personnes qui souffrent d'anxiété, finalement, à devenir autonomes dans la régulation de leur système nerveux pour guérir de l'anxiété et se créer une vie qui leur ressemble. D'accord ? Donc ça, c'est ce sur quoi elle s'est spécialisée, c'est son élément différenciateur. Elle a notamment un programme d'accompagnement type un programme de groupe, de coaching, à l'intérieur duquel elle utilise pour le coup tous ses outils, donc à la fois du breathwork, à la fois du yoga et à la fois ses compétences en de thérapeute et de coaching pour faire cheminer les gens. Donc, tu vois que, en fait, l'idée, encore une fois, hein, c'est quels sont les ponts et les points communs. Et j'aime bien cette idée du parapluie, c'est comment tu peux mettre tout ça sous un parapluie pour que ce soit quand même cohérent pour tes clients, mais que toi, tu puisses naviguer justement avec tes différents outils et selon tes différentes casquettes. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Du coup, j'avais aussi la question comment organiser son Insta ou autre canaux avec quand on a plusieurs activités. Donc là, en l'occurrence, on est sur une activité de joaillerie, de mémoire de la joaillerie en lien avec de la lithothérapie, et puis une activité aussi de yoga, sachant que la joaillerie, dans ce cas, est la première activité de cette personne, de cette prof de yoga, c'est son moteur, hein, c'est l'activité principale aujourd'hui. Ben là, je renvoie au même travail, c'est est-ce qu'il est possible de faire un pont entre les trois et est-ce que du coup, ça serait cohérent finalement, par exemple, d'avoir un seul compte Instagram où on peut tout à fait présenter ses créations, son process pour créer des bijoux, etc. en lien avec la lithothérapie et en même temps, peut-être comment j'utilise la lithothérapie aussi dans le yoga ou dans mes pratiques de yoga et en même temps promouvoir aussi ses cours ou ses offres de yoga. Ça peut complètement faire sens à partir du moment où on développe finalement ce compte Instagram sous sa propre marque personnelle, enfin sous soi finalement, et on partage nos différentes activités et les gens finalement vont s'y retrouver et c'est important pour nous qu'ils soient aussi ils peuvent s'y retrouver au milieu de ces deux ou trois différentes passions. J'ai par exemple une de mes clientes aussi qui est spécialisée sur les maladies chroniques, donc liées au mieux vivre finalement avec les troubles digestifs. Enfin, elle est spécialisée sur la maladie chronique des troubles digestifs, les maladies d'ailleurs, il y en a plusieurs de mémoire. Et donc son positionnement, c'est de mieux vivre au quotidien avec ses troubles digestifs et en même temps, elle confectionne elle-même, hein, fait main, des kimonos en gaz de coton. Et bien là, on voit que c'est tout à fait possible d'associer les deux. Comment elle peut lier les deux? Et bien tout simplement parce que finalement, ce kimono en gaz de coton, on peut aussi le présenter comme un vêtement de confort, un vêtement réconfort, un vêtement doudou, une matière naturelle. Peut-être qu'on se sent belle, peut-être qu'on se sent pas justement serré quand on a des troubles digestifs. Donc vraiment, se sentir belle, se sentir à l'aise, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Cet aspect doudou, confiance qu'on peut avoir en soi quand justement on a des maladies comme ça ou autre. Donc c'est complètement intéressant finalement de faire le lien et de promouvoir les deux ensemble sur le même compte. Maintenant, c'est aussi possible effectivement de se dire bah moi je suis la fondatrice ou je suis la prof de yoga et d'avoir ce compte prof de yoga, lifestyle yogi le positionnement sur lequel ta spécialité, donc par exemple mieux vivre avec les douleurs chroniques ou prof de yoga, astro yoga ou je ne sais quoi, et à côté d'avoir un compte avec ta marque de vêtements, avec ta marque de bijoux, Ou peut-être là, du coup, tu agiras moins en personal branding, mais plus avec une stratégie de marque. Donc voilà, je montre mes créations, je montre mes bijoux, je montre les gens qui portent mes bijoux, je montre les processus de fabrication, les matières, etc. Mais voilà, c'est vraiment du contenu de marque qui ne t'intègre pas forcément, même si ça peut être toi sur les photos ou autre. Hein. Mais l'idée, c'est, bah ok, moi je suis la fondatrice, donc j'ai un compte Instagram en tant que fondatrice et c'est peut-être aussi sur celui-là que je développe mon yoga. Si c'est du yoga en marque personnelle, c'est-à-dire si c'est toi qui donnes les cours, versus si c'est un studio où tu as des profs. Et puis d'un autre côté, avoir un compte de marque avec ton autre activité, donc par exemple de la création de vêtements ou de la création de bijoux. Donc il y a vraiment plusieurs options possibles. Après, il faut voir aussi... du coup, comment toi, tu te sens par rapport au fait de développer plutôt les choses sous le personal branding ou plutôt sous forme de marque, un seul compte, plusieurs comptes, etc. Voilà, c'est tout à fait possible finalement d'avoir plusieurs business. C'est aussi possible de les faire vivre par saisonnalité. Donc, il y a vraiment... plein de paramètres hein, qui sont intéressants à explorer dans ce cas. Mais en tout cas, c'est pas... une obligation d'avoir plusieurs comptes à partir du moment où je peux réussir à faire des ponts et à trouver du lien entre mes différentes activités si je le souhaite et si finalement je préfère autant communiquer sur un seul et même compte. Donc voilà pour cette question. Et puis la dernière question, donc c'était j'ai la création de ma structure en cours. Alors je sais pas ce que c'est la structure, mais on va imaginer un studio de yoga par exemple. Comment se démarquer d'autres structures, donc d'autres studios de yoga qui proposent des concepts similaires? Bon, eh bien, c'est un petit peu le même principe que les boulangeries. Hein. Heureusement qu'à chaque fois qu'une boulangerie veut se lancer, elle se dit pas... Enfin, si, c'est intéressant de se dire comment je me démarque, mais effectivement, il y aura toujours des structures similaires ou des studios de yoga qui se créeront, qui se développeront. Il y a des studios qui ferment, il y a des studios qui se créent. Donc, l'idée, en fait, ça va être de, justement, hein, un petit peu travailler sur ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, comment je me différencie. Ça va être la même chose pour un studio, c'est-à-dire bah, c'est quoi ton concept à toi, t'as envie de te faire connaître pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton studio, tu veux qu'il soit connu et reconnu sous quels aspects, je vais te donner des exemples concrets après, quelles sont aussi les valeurs que tu insuffles hein, dans ton studio, et donc bah, tout ça en fait ça va faire que effectivement la manière dont toi tu vas, le studio que tu vas lancer, les cours que tu vas y donner, comment tu vas l'animer, tes offres, tes valeurs, la clientèle que tu vas cibler, etc. Ben, tout ça va faire que derrière le terme studio de yoga, il y a deux expériences qui vont probablement être complètement différentes pour la seule et unique raison de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, à partir du moment de toute façon, où toi, tu es unique, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se copier. Donc, même si la structure de base est la même, un studio est un studio et voilà, toi, ta personnalité, tes valeurs, ton expérience, ce que tu vas enseigner, ta pédagogie, comment et qu'est-ce que tu vas vouloir amener et insuffler dans ton studio ou même ton équipe d'enseignants, ça sera forcément différent. Par exemple, je vais citer Julia, qui est ma prof de yoga à Nîmes, qui a le studio Oli Yoga, Oli Studio à Nîmes. Eh bien, c'est un studio avec une forte appétence de Julia pour la décoration, pour le beau. Vraiment, quand on va dans ce studio, on se sent dans une ambiance comme un peu comme à Bali, j'ai envie de dire. Il y a une clientèle qui c'est plutôt des femmes de... Alors, il y a aussi des hommes. Enfin, j'en ai vu quelques-uns passer, en tout cas. Mais c'est plutôt des femmes de centre-ville, des femmes qui travaillent aussi, qui sont indépendantes, ou alors des avocates, des notaires, des commerçantes. Et puis, on a aussi quelques influenceuses qui passent dans le studio de Julia et qui repartagent leurs pratiques. Donc, on a un peu l'image, effectivement, d'un studio de femmes actives, qui ont un peu des carrières, qui travaillent. Voilà, on a un peu cette image-là d'un studio qui est pas forcément tourné vers des pratiques trop spirituelles. D'ailleurs, il y a aussi du yoga aérien, il y a aussi des workshops de handstand qui sont proposés par Julia. Donc vraiment, bah, il y a une vibe que il y a plusieurs studios à Nîmes que je vais pas forcément retrouver dans d'autres studios qui seront peut-être plus axés, voilà, sur du hatha, sur quelque chose de spirituel, sur des peut-être plus de la méditation ou des choses comme ça. C'est aussi un studio donc où Julia, ben, elle met en avant d'autres profs de yoga qui travaillent aussi pour elle. Donc déjà il y a une équipe, donc ça amène forcément aussi de la diversité. Elle invite aussi donc des guests, hein, notamment pour des workshops. Donc tout ça finalement, ça crée une patte qui est unique et qui fait qu'on va aller chez elle et pratiquer dans son studio pour toutes ces raisons. Et après, au-delà de ça, Julia elle-même dans son enseignement, elle a un format type entre guillemets, enfin elle a sa touche aussi dans son cours. Il y a toujours un pranayama, une pratique de yoga et une méditation. On dit souvent que c'est voilà le trio ou le combo comme on veut idéal d'un cours, mais pour autant moi pour avoir pris plein de cours dans plein de studios différents, c'est absolument pas toujours le cas. Et puis enfin systématiquement à la fin de la pratique, elle offre une tisane. Donc on est encore sur notre tapis, on revient de notre Shavasana et Julia nous offre une petite tisane. Et bien tout ça fait que c'est un studio qui n'est pas comme le studio d'à côté et que je sais pertinemment si je vais dans ce studio-là, pourquoi j'y vais, et c'est pour toutes ces raisons-là. Et c'est aussi un petit peu, hein, parce qu'on est humain, pour l'étiquette qu'on veut bien se mettre et à quel studio et à quelle vibe on a envie d'appartenir. Donc c'est extrêmement important de venir cultiver et de venir travailler ça. Un autre exemple du studio de Perrine, de Jinko Yoga à Lyon, puisque j'ai eu l'occasion du coup de m'y rendre pour animer la partie business du Yoga Teacher Training 200 heures, et eh bien là, alors je vais un peu grossir le trait, mais Perrine, elle est issue vraiment d'un business corporate, hein, c'était une femme d'affaires qui faisait le tour du monde, débordée, etc. Et eh bien son studio, il est aussi à destination de gens comme elle, ou comme elle était auparavant. D'ailleurs, elle est dans un quartier d'affaires, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi cette image de on fait du yoga, mais on aime aussi prendre l'apéro et manger une bonne entrecôte. Par ailleurs, Perrine, elle se démarque aussi puisque du coup, elle organise des formations au sein de son studio, des formations certifiantes et pas que d'ailleurs. Et elle se démarque aussi puisqu'elle a un corner shop avec des marques qui sont assez tendances, on va dire, ou des choses assez tendances, ce qui aussi, n'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans le studio d'à côté et qui lui amène aussi une clientèle qui est à la recherche de ça versus peut-être commander sur internet ou quoi, de pouvoir accéder à ces produits-là de marques tendances français, etc., dans sa boutique. Donc, ça aussi, finalement, ça vient différencier quelque part sa structure. J'espère donc que ces exemples concrets te permettront de comprendre comment se démarquer de certaines, d'autres studios finalement qui proposent des cours de yoga aussi, mais en fait on peut se démarquer sur plein de choses. Donc pour conclure sur cet épisode, parce que ça va déjà faire bientôt une heure qu'on est ensemble pour ce troisième épisode de la semaine, j'espère que tu aimes passer du temps avec moi. Pour conclure sur cet épisode, déjà c'est de retenir que de toute façon tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, et crois-moi, c'est pas ce que tu veux, attirer vraiment tout un tas de gens différents qui résonnent pas forcément avec toi, ta personnalité, tes valeurs, ce qui te passionne, etc. Et ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que tout a déjà été fait dans ce monde quasiment. Donc ne recherche pas l'innovation, mais cherche au contraire plutôt la combinaison pour trouver ta propre méthode, pour trouver ta propre patte à toi en fonction de toutes ces clés qu'on a vues aujourd'hui. Et retiens que tant que ça n'a pas été fait par toi, c'est-à-dire avec ta propre combinaison à toi, avec ta propre pédagogie, personnalité, valeur, etc., eh bien, ça n'a pas été fait et il y a probablement des gens qui t'attendent quelque part. YogiBiz Podcast, épisode 3 sur 7 sur comment se différencier dans un marché concurrentiel, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'épisode 4 sur les revenus des profs de yoga. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.